Ok, j'aimerais. Alors j'ai prévu un temps varié. Enfin, on peut vivre différentes choses cet après-midi. Alors finalement, c'est vous qui allez donner le tempo. J'aimerais nous laisser peut-être dans un premier temps la possibilité de réagir par rapport à l'apport de ce matin avec des questions. Peut-être des choses qui vous ont interpellé ou pas, ou peut-être choqué, ou peut-être vous avez envie de réagir. Que ce soit aussi des choses très concrètes, n'hésitez pas. Donc j'aimerais vous laisser la possibilité de réagir en levant la main, là où vous êtes, il y a un micro qui va tourner, et de poser des questions, et qu'on ait comme ça un dialogue pendant quelques minutes par rapport à ce qui a été apporté ce matin. Et si finalement, toute l'après-midi, c'est pas toute l'après-midi, c'est une heure, mais si on dialogue juste sur rebondir par rapport à ce qu'on a vu ce matin, ça marche. Et sinon aussi, il y a d'autres choses à vivre en groupe aussi, mais j'aimerais que ce soit vous finalement qui donniez le tempo à notre après-midi. Donc, si vous avez envie de réagir, de poser une question, de partager, n'hésitez pas à lever la main.
Alors, tu as dit une chose ce matin qui m'a interpellée par rapport à la musique. Quand tu as dit... on a de la musique qui n'est pas adaptée au contexte culturel. Alors, je sais que toi, tu es musicien. Alors, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, comment tu le qualifierais ? Est-ce que ça, c'est adapté ou pas ? Parce que je me suis vraiment demandé de quoi tu parlais.
Merci,
est-ce que tu parles,
Karine,
des anciens cantiques, des ailes de la foi, tout ça ? Ou est-ce que tu parles de ça ? De quoi tu parles ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse du rap dans l'église ? De quoi tu parles ?
La bonne question piège. Si vous pouvez sortir deux minutes, le groupe, que je puisse y aller vraiment... Alors, si tu as bien écouté, Karine, je voulais pas parler forcément de la musique qu'on a au sein de nos célébrations, de nos cultes, mais j'avais parlé des événements d'évangélisation. Je vais pas éviter la question. J'aimerais remercier le groupe de ce matin qui nous a proposé une louange de qualité. Merci à eux, merci à leur adaptation culturelle. C'est frais, c'est actuel et ça fait du bien. Donc voilà. Je ne suis pas tombé dans ton piège, Karine. Mais pour revenir sur ce que je disais, on a parfois des concerts d'évangélisation. Donc déjà, on est dans un modèle attractionnel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est l'Église qui propose et il faut qu'on attende que les gens viennent dans nos locaux. Alors idéalement, peut-être même dans une salle de la ville qu'on a louée, parce que c'est un endroit neutre, mais ce n'est pas toujours comme ça, parce qu'on n'a pas forcément les finances, etc. Donc on invite dans nos locaux de l'église et on attend que les gens viennent nous rejoindre. Donc déjà, on demande aux personnes de faire cet effort-là, de venir sur notre terrain, ce qui n'est pas toujours évident. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que parfois, on met en tête d'affiche des choses que nous, on écoute dans l'Église et que nous, on aime bien et qu'on pense que parce qu'on aime bien, ça va rejoindre les autres. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est de ça dont je voulais parler. En fait, et c'est aussi cette question-là de bien connaître le public à qui on s'adresse. C'était cette idée de les rejoindre sur le terrain culturel. Parce que les gens à qui on s'adresse n'écoutent pas les cantiques que nous écoutons. Et n'écoutent pas les chanteurs chrétiens que nous écoutons. Et parfois, on propose des choses qui fonctionnent pour nous, parce que dans l'Église, ça nous fait du bien, mais qui, en fait, on pourrait proposer des choses bien différentes sur le terrain de nos amis, de nos invités, pour pouvoir parler leur langage. C'est de ça dont je voulais parler. J'essayais pas de parler de la louange pendant nos cultes. Mais puisque tu en parles, parlons-en. Il me semble que, oui, on devrait... Je pense que dans nos célébrations, dans nos cultes, on a besoin d'être aussi culturellement pertinent. Un minimum, c'est pas toujours évident. Et ça, j'avoue que c'est une question compliquée. Mais on ne lit plus, par exemple, la Bible dans un vieux français. On s'est adapté. On lit la Bible en français courant. Et donc, on s'adapte quelque part à notre monde qui évolue. On verrait aussi d'un mauvais œil que le prédicateur, le dimanche matin, n'est pas forcément préparé son temps de prédication ou vite fait, voilà. Et en fait, on cherche de la qualité quand on prêche la parole. Et c'est la parole elle-même qui nous le demande. Mais je pense que finalement, cette question-là, on devrait la travailler dans tout ce que l'on fait, de manière publique dans nos églises, le travailler, le réfléchir à fond, pour que ce soit qualitativement aussi pertinent. Et donc, attention, hein, je connais la difficulté, on est déjà très content quand les gens s'engagent dans l'Église, etc. Mais voilà, cet après-midi, on réfléchit ensemble et on veut réfléchir à nos pratiques aussi. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire une pause dans nos pratiques et de se dire, OK, à quoi ressemblent nos cultes et comment ceux qui viendraient nous rejoindre et qui n'ont pas notre culture le recevraient. Voilà, c'est ça l'idée. Et je pense qu'on peut adapter, effectivement, la forme. L'évangile peut s'adapter sur la forme, pas dans le fond, il ne changera jamais le fond, mais la forme peut s'adapter, la forme de tout ce que nous faisons peut s'adapter. Donc voilà, réflexion ouverte, pas toujours évidente, parce que on travaille aussi avec des personnes qui veulent bien servir, qui veulent bien se lever, qui n'ont pas forcément toutes les qualités. Mais je pense qu'on peut aussi s'attendre à des gens qui sont dans la louange, dans nos églises, à la réalité qu'ils travaillent leur instrument de la même façon qu'un prédicateur va travailler son texte. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, quelqu'un qui se lève et qui est débutant dans la musique, on est content, on lui laisse la place à l'église et on veut le former. Et dans cette formation, on veut lui faire comprendre aussi qu'en fait, il faut qu'il travaille. Et parce qu'on travaille pour le maître et qu'on veut faire des bonnes choses pour Dieu. Et du coup, on veut aussi présenter la meilleure copie possible de nos cultes pour être pertinent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah, pas du tout, je croyais que c'était une blague, mais elle a dit pas du tout.
Parce que tu viens de dire, je suis absolument OK, bien sûr. Mais moi, la question, c'était plutôt de quel style de musique tu parles. Quand tu dis que ce n'est pas adapté culturellement, je n'arrivais même pas à me dire, mais de quoi il parle? Je me dis, je ne sais pas, moi, je vais dans notre église, on joue le J'aime l'Éternel. Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui vient de se convertir, elle kiffe, elle adore, elle lance comme ça, voilà. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va pas changer ça, quoi. On va pas dire, ah ben maintenant, on fait je sais pas quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Alors, Karine, on s'est mal compris. Je te redis, je te parle pas du style de musique pendant nos cultes.
Oui, d'accord. L'évangélisation, d'accord. Voilà, mais est-ce que tu peux donner des exemples, alors? Parce que je sais pas de quoi tu parles, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tu peux dire, donner des noms de groupe ou des choses comme ça, qu'on non, s'imagine non. Un peu de quoi tu parles, quoi.
Je sais pas. Je vais pas donner, non, je vais pas donner des noms de groupe. C'est pas l'idée. Mais. Je veux juste dire que il y a des choses que nous présentons dans nos églises qui, je pense, ne sont plus pertinentes pour les personnes que nous visons. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et qu'il faut être à la recherche de pouvoir proposer des si c'est de la musique, mais ça peut être aussi c'est pas que la musique, hein, ça peut être peut-être aussi parfois des soirées thématiques, réfléchir la pertinence de tout ce que nous proposons. J'ai pas envie de donner de nom de groupe, c'est vraiment pas ça l'idée. Mais ça va peut-être nous demander de demander à nos amis ou aux amis de nos jeunes dans les églises qu'est-ce qu'ils écoutent. Quel est le style qui fait partie de leur culture? Aujourd'hui, il faut savoir ce qui pouvait. La chanson française des années 70-80, pour l'époque culturelle des années 70-80, si on le met aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, c'est le rap. La variété française. C'est le rap, en grande partie. Il y a encore de la variété française, de pop, des Français qui chantent, des chansons françaises, tout ça. Mais en réalité, ce qui se vend le plus aujourd'hui, ce qui s'écoute le plus aujourd'hui, ce qui se télécharge le plus sur les plateformes, c'est le rap. Et on va être honnête entre nous, les chrétiens, c'est pas notre tasse de thé forcément à tous. Mais ce n'est pas que les générations. Oui, oui, bien sûr.
En sorte que finalement, nos jeunes ne disparaissent pas de nos églises.
Oui.
Parce que regardez, les 7 à 11 ans sont pris en charge jusqu'à 15 ans. Alors, qui a entre 15 et 20 ans, là ? Il y en a combien ? Où sont passés nos jeunes ?
Les lycéens pouvaient aussi rejoindre les collégiens.
Ah,
les lycéens peuvent aussi rejoindre les collégiens.
Après les collégiens, donc non, 20 après les après le lycée. Ans. Je veux dire, pensons déjà à nos jeunes pour que nos jeunes ne disparaissent pas de nos églises.
Oui, 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 bien sûr.
Donc forcément, le rap ou des choses un peu plus dynamiques doit venir dans nos églises.
Oui. Alors, une autre question ?
Bonjour. Alors moi, je vais faire un peu de maths. J'ai une équation à plusieurs inconnues. Je pense que dans cette assemblée, on est un certain nombre à être interpellés et à se dire ben, on aimerait bien toucher nos voisins, nos collègues, s'impliquer dans des associations locales où on pourrait témoigner. Et on aimerait bien aussi s'engager dans notre assemblée, dans les groupes de maison, puisque ça nourrit aussi les gens qui viennent, les nouveaux disciples qui ont besoin d'être nourris, et nous-mêmes, dans l'école du dimanche, dans les jeunes. Et puis, on aimerait bien aussi prendre du temps pour notre relation avec Jésus, parce qu'on ne veut pas terminer non plus en burn-out et spirituel. Et dans notre société, où le rythme y va à 100 à l'heure, où on remplit notre planning de plein de choses, où la société devient très individualiste, et du coup, ben, on ne va pas se cacher, trouver des gens qui veulent s'engager et donner de leur temps et de leur énergie, ce n'est plus trop la mode. Du coup, moi, j'ai une équation, comment on fait pour que ben, chacun se sente impliqué et arrive à s'engager là où il faut être actuellement dans notre société, comme tu l'as partagé. Et puis, pour que aussi, bah, on finisse pas par dire, bah, après tout, il y a des pasteurs, ils sont payés pour ça, ils peuvent aussi le faire. Et voilà. Donc, c'est une interrogation. Je me sens très interpellée par ce que tu as partagé, mais quand je me dis concrètement comment on va faire, ben, si je suis réaliste, ma liste va finalement être réduite à très peu de choses de ce que tu as partagé. Quoi.
Merci. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je ne viens pas et que quand je vais repartir, vous allez vous sentir écrasé. J'aurai échoué, si c'est le cas. Donc, c'est une question hyper pertinente. Merci. Le temps et nos activités. Et je crois que c'est peut-être la question la plus pertinente qu'il faut qu'on se pose. Je crois que d'être missionnel, à la fois des disciples missionnels ou des églises missionnelles, ce n'est pas la question de qu'est-ce que l'on fait. Ce n'est pas la question de nos activités. C'est la question de notre capacité à être des disciples tous les jours de notre vie, là où le Seigneur me place. On a parlé de ces deux réalités, l'Église rassemblée, l'Église dispersée. L'Église rassemblée, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, comment on peut bouger certaines choses de ce que l'on fait quand on est rassemblé pour s'ouvrir aux autres, ça c'est une chose. Et tout le reste, et finalement c'est la plupart de notre temps, c'est l'Église dispersée. C'est quand je ne suis pas rassemblé avec des frères et sœurs. Quelle est la place que je prends là ? Et pour moi, être missionnel, ce n'est pas faire, mais c'est être. C'est exister, vivre dans mon contexte. C'est comment je témoigne de ma foi autour de moi et comment peut-être même les choses que j'aime vont me permettre de témoigner. par exemple. On a tous besoin de vivre des loisirs. Est-ce que je peux être, faire des choix intentionnels, réfléchis, pour que mon loisir soit aussi un espace de témoignage, de rencontre. Par exemple, moi, je me suis lancé dans le ministère il y a 13 ans maintenant, et quand on est arrivé à Strasbourg pour implanter l'église, le réseau de témoignages que je pouvais avoir, c'était les parents d'école. J'allais le matin déposer mes enfants, et mes autres parents allaient déposer leurs enfants, et sur un espace-temps de 10 minutes, un quart d'heure, on pouvait discuter, prendre des nouvelles, peut-être s'inviter, peut-être prévoir une activité ensemble. Et c'était là mon réseau principal de personnes non chrétiennes dans lesquelles je pouvais m'impliquer. Et là, du coup, j'ai le choix entre juste dire bonjour, être poli, ou alors être très intentionnel et me dire que chaque papa, chaque maman que je vais rencontrer devant l'école, j'ai la possibilité de créer un pont entre eux et moi, et entre eux et l'Évangile. Et du coup, c'est par l'amitié, c'est par tisser du lien que cette réalité-là se vit. Un apéro chez moi, j'invite les papas et les mamans, et on fait un apéro dînatoire. Et puis on est ensemble, et puis à un moment donné, si Dieu le permet, l'Évangile peut surgir dans une discussion ou une prière pour quelqu'un qui est en difficulté, ou un encouragement par rapport à la foi qui m'anime et qui pourra encourager un ami ou une amie. À un moment donné, mes enfants ont grandi, sont allés au collège, il n'y a plus de rencontres devant l'école. C'est terminé. On n'amène plus les collégiens au collège. Et il n'y a plus de réseau. Je me suis retrouvé à n'être qu'avec des chrétiens. Et je me suis dit, ça ne matche pas. Il faut que je rencontre des non-chrétiens. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui me nourrit et où je vais pouvoir rencontrer du monde. Et en fait, je me suis inscrit dans une troupe d'improvisation théâtrale. Et puis, je suis arrivé dans un contexte avec 50 personnes adultes qui participent à la vie associative, que j'ai pu rencontrer et commencer à tisser des liens. Ça me demande pas plus de temps que ça, puisque c'est une activité que j'ai choisi de faire, qui me fait du bien aussi. Mais intentionnellement, du coup, dans cette activité, je cherche à créer des ponts. Et il me semble que c'est ça la vie missionnelle. C'est être conscient que je suis en mission partout où Dieu m'envoie, que j'ai possibilité de créer ces ponts-là. Et il ne s'agirait pas de tout d'un coup recréer des tas de choses, des tas d'activités. Par exemple, l'Église pourrait sans cesse créer des nouvelles activités pour répondre aux besoins des personnes qui nous entourent. Mais on pourrait le voir différemment. Plutôt que de nous charger de créer des choses et de les porter et d'organiser, on peut aussi dire, moi, j'ai le social à cœur. Dans mon quartier, il y a une action sociale qui se vit avec 3-4 frères et sœurs de l'Église. Parce qu'on a le social à cœur, on va rejoindre l'association et on va être des membres de l'Église engagés dans cette association. Des disciples de Jésus-Christ présents dans une association. On ne va pas porter, on ne va pas organiser, on va profiter finalement de ça, on va juste servir et on va répandre la bonne odeur de Christ là où Dieu nous envoie. Je crois que c'est ça la réalité missionnelle. Comment je m'incarne dans le monde et comment je fais des choix intentionnels. Et ce n'est pas forcément à l'Église de tout inventer et de tout porter, parce qu'effectivement là, avec le peu de gens qui se lèvent, on évite toujours les mêmes à faire les mêmes choses et à être écrasés. Et finalement, cette réalité-là qu'on vit parfois dans nos églises nous empêche même d'avoir du temps dégagé pour être avec nos amis non-chrétiens. Et je crois que ça aussi, c'est peut-être un défi pour nous dans les églises. Comment on peut organiser moins de choses pour libérer chaque membre pour pouvoir être plus présent dans la société avec nos amis. Je crois que c'est important. Et je crois que parfois, il y a des vaches sacrées dans l'Église, des activités qu'il est juste impossible de penser qu'on va arrêter, alors que peut-être elles pourraient libérer du temps et du potentiel pour d'autres choses dans la cité, dans la société, qui pourraient porter du fruit également. Donc c'est dans cette réflexion-là que moi j'essaye d'avoir et que je vous partage cet après-midi. Et effectivement, le facteur temps est important. Mais on a tous un job, sauf les personnes retraitées. Attention qu'on ne se méprenne pas. J'ai pas dit que vous ne faisiez rien. Je ne me permettrai pas. Loin de là. Vous êtes des personnes précieuses. Mes frères et sœurs à la retraite, vous êtes des personnes extrêmement précieuses pour dynamiser la vie missionnelle dans l'Église. Vous avez du temps, vous avez des idées, vous avez le cœur pour le Seigneur et vous avez la possibilité de dynamiser la réalité missionnelle. Effectivement, donc je parlais juste d'un travail où on se rend tous les matins, juste pour vous dire que le Seigneur nous place là dans un travail. C'est finalement peut-être notre principale mission. Mais alors, il faut que je puisse avoir les moyens de rayonner, de témoigner, de savoir comment créer des ponts et d'avoir cette culture de l'amour qu'avait Jésus pour aller vers des gens qui ne lui ressemblaient pas, mais qui l'avaient à cœur de toucher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que ça nous aide dans notre réflexion à ne pas croire qu'il faut faire, mais plutôt être. C'est sur notre façon d'être dans le monde que cela va débloquer les choses, il me semble.
Yeah. Merci.
Donc, je voulais témoigner.
Il y a deux micros, c'est pour ça, désolé.
Oui. Il y a donc le verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En décembre, on m'a découvert un cancer. Et là, on peut se poser la question, où est le bien? Mais avec les séances de chimio, j'ai été amené à pouvoir témoigner à l'hôpital, donc surtout auprès de la diététicienne qui a plus de temps que les infirmières. J'ai vu que cette dame avait une petite croix au cou, et puis bon, de fil en aiguille, on est arrivé sur le sujet de la spiritualité. Et donc, cette femme est croyante catholique, mais bon, sans plus. Et on a vraiment pu rentrer dans un sujet profond où cette dame a été vraiment touchée, qu'on peut aller au-delà d'une religion, que Jésus-Christ et l'enseignement de la Bible vont beaucoup plus loin. Et j'ai pu lui donner le film Jésus et un évangile. Elle a dit, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir continuer la discussion. Quand cette dame est sortie, je me suis dit, maintenant Seigneur, j'ai compris pourquoi tu as permis cette maladie et donne-moi encore d'autres occasions. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci cher frère pour ce témoignage qui va vraiment dans le sens de ce que nous partageons aujourd'hui. À savoir que voilà, c'est le Seigneur qui nous place dans des contextes et que je peux prendre chaque occasion comme une occasion bonne pour être un témoin.
Oui, je voulais aller dans le sens d'Arnaud de ce matin. Je trouve que nous devrions trouver la place dans la société, dans la cité, notamment à travers les associations, vous le savez, et peut-être aussi dans un conseil municipal. Je suis maire depuis une dizaine d'années maintenant, et je trouve que c'est un formidable endroit. Alors bien sûr, on ne fait pas beaucoup de politique dans un conseil municipal, on prend des décisions d'administration, mais de temps en temps, il y a des sujets de fond qui viennent. Des sujets sur des questions de société, de relations de voisinage. Le maire doit régler des conflits entre des voisins, il doit régler un tas de nombre de choses. Et je trouve que nous sommes quelques-uns dans la salle, des élus, et je trouve qu'on a une formidable place à occuper dans les conseils municipaux. Alors, ce n'est pas le moment de faire une campagne, mais réfléchissez, parce qu'en 2026, vous avez des élections municipales. Vous êtes peut-être dans une association dans laquelle vous œuvrez, ou alors vous faites la journée citoyenne, vous donnez un coup de main à la mairie. C'est le moment de réfléchir, parce que, franchement, si vous êtes dans un conseil municipal, vous avez droit à la parole. Alors, bien sûr, le maire n'est pas non plus forcément très ouvert, toujours, parce qu'il y a des décisions à prendre. Mais là, il y a de quoi témoigner, de prendre position sur les faits de société, souvent. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'Assemblée nationale, mais au niveau local, il y a des places à prendre. Et en tant que témoin, il y a, chrétien, il y a de quoi dire, parfois humblement, mais ça chemine.
Merci. Ça me fait penser à la période où le peuple juif a été déporté à Babylone, loin du temple, loin de la Terre Sainte, finalement loin de la présence de Dieu, et ce peuple désespéré de cette place qui n'était pas la sienne. Il est là, dans un pays étranger qui n'est pas le sien. Et la tentation aurait pu être de se recroqueviller sur lui-même. Et le Seigneur lui dit, mariez-vous, construisez, vivez dans cette ville, développez-vous, faites du bien. Et après, on sait, le projet de Dieu les a ramenés jusqu'à Jérusalem. Mais la réalité de Dieu, c'était de dire, je vous ai placé dans ce contexte-là, vivez-le, ce n'est pas le vôtre, vivez-le à fond. Et c'est ça la réalité missionnelle. Nous sommes dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Nous sommes des citoyens du ciel. Parfois, nous nous trouvons comme étrangers. Nous ne comprenons pas quelles sont les décisions qui sont prises, comment les gens fonctionnent. Et on a presque envie de dire, j'aimerais plutôt être au ciel qu'ici, mais le Seigneur nous dit, mais tu es là maintenant. Vis ta vie. Fais tes choix, fais du bien à la cité, fais du bien à tes amis. C'est ça cette réalité missionnelle, de ne pas nous recroqueviller sur nos églises, mais de vraiment vivre cette vie-là.
Tu veux bien mettre le micro, merci. Juste pour compléter, moi j'entends des fois, ah mais les chrétiens, il ne faut pas qu'on fasse de politique. Et je voulais juste dire que on ne peut pas à la fois regretter toutes les décisions qui se prennent dans le monde et laisser la place à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est de l'abandon de pouvoir. Et dans un village, comme la plupart d'entre nous, même dans les petites villes, la plupart du temps, dans un conseil municipal, on ne fait pas de politique politicienne. Et c'est vrai, j'appuie vraiment ce qui a été dit, il y a de la place pour des chrétiens pour être sel et lumière dans un conseil municipal. C'est sans doute plus facile que dans des grandes villes où c'est de la politique politicienne. Là, on passe effectivement sur un autre registre, mais il y a de la place pour des chrétiens dans les conseils municipaux, dans les villages. Il y a une belle place. Et les femmes, me dit-on. Voilà. Il y a des problèmes. Je retranscris pour ce qui a été dit pour ceux qui sont loin. Il y a besoin de la parité dans les listes, donc il y a aussi souvent besoin de femmes. Donc, voilà. Je laisse la parole à la question suivante.
Et une femme, ça tombe bien, c'est une femme. Je suis Michel de l'église Haguenau, et ma question, Arnaud, c'est merci pour tous ces encouragements, et quelles sont les limites du prosélytisme ?
Il n'y a pas de limite à l'amour. Le témoignage de la présence de Christ dans ma vie ne devrait jamais être du prosélytisme. Si on nous taxe de prosélytes, c'est certainement que notre approche peut choquer et déranger. La vie missionnelle, ce n'est pas l'organisation de campagnes d'évangélisation. La vie missionnelle, c'est d'être à côté de personnes, peut-être un cercle relativement restreint au final, de gens que je connais, et de les aimer. De les aimer jusqu'au bout, mais jusqu'à ce que le Seigneur m'accorde des moments privilégiés où je vais pouvoir encourager, être un poteau indicateur vers Jésus, prier pour une situation très compliquée, pour une guérison, pour des tas de choses que les personnes portent et où je vais pouvoir mettre en contact mes amis avec le Dieu Tout-Puissant. Il me semble que là, on est loin du prosélytisme. Et il me semble que quelqu'un aurait du mal à nous taxer de prosélytes si je l'aime et que toute cette relation que je construis est construite par un amour sincère. Le Seigneur Jésus est toujours venu rencontrer les personnes en touchant à leurs difficultés, à leur cœur. Quand il rencontre la Samaritaine, il ne lui dit pas « Assieds-toi, ma fille, je vais te parler du royaume de Dieu. » Quand il rencontre la Samaritaine, il lui dit « Donne-moi à boire. » Et après, il lui dit « Va chercher ton mari. » Et là, il touche à une question parce qu'il la connaît, lui. Mais nous aussi, nous connaissons nos amis. Mais il touche à un besoin de cette femme. Et c'est à partir de cette réalité-là, dans une rencontre très rapide, bien sûr, nous, on construit ça sur des semaines, des mois, des années. Mais c'est à partir du cœur de Jésus qui veut toucher au plus profond cette femme que le miracle s'opère. Et en fait, c'est, je crois, là encore, c'est cette réalité-là, la vie missionnelle. Ne pas créer quelque chose de toute pièce, ne pas forcer, mais être dans des relations. Et voilà, encore une fois, et je me répète, et voilà, on n'a pas le choix. Si l'on veut être missionnel, on doit aller vers les autres, on doit s'intéresser aux autres, on doit sortir de l'Église et nous approprier, nous intéresser à la vie de ceux qui nous entourent. Donc évitons le prosélytisme, voilà. Évitons les approches de témoignages trop brusques, trop directes. Encore une fois, ce serait ne plus comprendre la société dans laquelle on vit. Ça ne marche plus comme ça, ça ne marche plus par l'intellect. Il y a quelques décennies encore, les personnes ont leur présenté l'évangile de façon intellectuelle. C'était par la raison que ça passait. Aujourd'hui, ça ne passe plus par la raison, parce que les gens ne connaissent plus la réalité, les contextes bibliques. Il faut faire tout un cheminement avec eux pour les amener à croire en Jésus. Donc, c'est par ma vie, c'est par mon amour, c'est par petites touches, et ce sera peut-être à un moment donné par « Est-ce que tu as envie de découvrir le message de la Bible ?» Et là, on peut faire ce chemin sur plusieurs semaines et les amener finalement à Christ, mais sinon, c'est complètement déconnecté de leur réalité, donc venir et de dire tu es pécheur et tu as besoin de Jésus comme sauveur, là oui, on va nous taxer de prosélytes, mais prendre le temps, ne pas chercher à placer l'évangile tout de suite, aimer et aller jusqu'à ce que le cœur s'ouvre et prier pour cette personne, que le Seigneur la conduise, l'amène jusqu'à lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais...
Pardon, merci Arnaud, mais c'était par rapport aux limites de la loi. Tout à l'heure, on avait les bien-aimés qui disaient « Oui, il faut qu'on prenne notre place dans les conseils municipaux », mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout dire dans le cadre du travail ou d'un conseil municipal. Mais au travail... je peux inviter un collègue à manger avec moi à midi, et là, le cadre a changé, c'est plus le même. Ou venir chez moi le soir, c'est plus le même cadre, donc je suis en dehors. Finalement, le travail, c'est je rencontre des hommes et des femmes, je leur manifeste de l'amour, je veux tisser des liens avec eux, et dans la relation, s'il le faut, uniquement privée, parce que mon cadre ne me le permet pas, eh ben, je peux après lui témoigner. Mais je trouve intéressant aussi que dans les églises, on se forme pour être des disciples au travail. Il y a des formations très pertinentes aujourd'hui qui existent et qui nous aident à réfléchir comment, dans le cadre du travail, puisque c'est là où on passe une grande partie de notre temps, on peut être disciple. Et donc, moi, il me semble que dans chaque église ou dans chaque région, on devrait avoir des temps où on se réunit et où on réfléchit à cette réalité-là pour qu'on soit complètement préparé, décomplexé et peut-être aussi en alerte avec ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas, et quand on ne peut pas, comment on peut finalement le vivre.
Merci Arnaud pour tout ce que tu nous partages. Moi, je voulais juste donner un court témoignage. Tu as parlé de poteau indicateur et j'aime beaucoup cette expression parce que moi, ce que je cherche à être, sans doute j'échoue souvent, j'aimerais pouvoir être un poteau indicateur parce qu'un jour, quand je me suis converti, les circonstances de la vie ont fait que j'ai cherché Dieu et j'ai dit à Dieu, j'aimerais te rencontrer. Et un frère qui était venu, je pense, si on se réfère aux critères d'évangélisation relationnelle, avait fait avec moi des choses très maladroites, je pense, est venu me voir un jour et je savais que c'était quelqu'un qui venait de la part de Dieu. C'était un poteau indicateur. La manière dont il s'y était pris avec moi avant était sans doute maladroite, peut-être trop brutale. Mais le jour où l'Esprit-Saint m'a parlé, je savais que cet homme était un homme de Dieu. En tout cas, qu'il allait me guider vers quelqu'un d'autre peut-être, mais je savais qu'il était là. Et la crainte que j'ai parlé la semaine dernière avec un autre frère, c'est qu'un jour je rencontre quelqu'un qui me dit « Tiens, ça fait 20 ans que je vis avec toi, je ne savais pas que tu étais chrétien. » Ça, c'est une crainte que j'ai. Et elle est facile à dissiper. Nous sommes aujourd'hui dans une rencontre avec des frères et sœurs. Demain, vous allez rencontrer des gens au boulot, vos voisins. Hier, j'ai passé une super journée. Qu'est-ce que tu as fait ? J'étais avec des frères et sœurs chrétiens à Zébar. C'est tout, il n'y a pas besoin de dire plus. S'il y a une question doit être posée, elle sera posée. Si des gens ne poseront jamais de questions, ne la poseront jamais. Mais le poteau indicateur, il s'est manifesté. Je pense que c'est facile à faire, ça ne prend pas de temps. Et en tout cas, dans mon cas, ça m'a été extrêmement utile le jour où ce frère s'est manifesté.
Voilà. Merci.
J'étais interpellée par ce que vous avez dit que... J'ai fait partie d'un café des aidants parce que je m'occupais de ma mère qui avait des problèmes cognitifs, et je me suis rendu compte que dans ce contexte, je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais. Mais j'ai été très touchée par les personnes qui étaient là, parce que moi je m'occupais de ma mère, mais la plupart des personnes étaient âgées, s'occupaient de leur femme ou inversement. Et j'ai ressenti beaucoup d'empathie envers ces gens. Et j'ai été très prudente de parler de Dieu envers eux. Et un jour, quand même, après le décès de ma mère, un moment, j'ai quand même pu leur parler comment j'ai vécu ce décès, comment je vis ce deuil. Et tout le monde m'a écouté avec un grand silence. Et je pense, comme vous avez dit, il faut d'abord les aimer et avoir de la compassion pour les autres, et pas venir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Voilà.
Merci pour votre témoignage.
Oui. J'ai beaucoup apprécié le témoignage du frère dans sa maladie, dans sa faiblesse. Et c'est effectivement quand on est faible qu'on peut arriver. En donnant un évangile, carrément, on est en position de force. Et j'ai remarqué, moi je fais beaucoup dans le long terme, dans l'amitié à long terme. Mon meilleur ami est un athée, et pendant déjà 30 ans, quoi. Et donc, dans mes voyages, j'aime aussi donner ces évangiles. Et pour moi, ce n'est pas du prosélytisme, parce que en fait, j'attends qu'il y ait une connivence avec les gens. Et il y en a toujours, quoi. Dans le train, moi j'étais cheminot, donc je voyage beaucoup. Et ces évangiles, c'est merveilleux parce que ça a été écrit avant les religions et tout ça, avant les différences. Et la clé, effectivement, c'est l'amour. Et les cheveux blancs, c'est vraiment un avantage. Si vous avez des cheveux blancs, ne rendez pas les autres jaloux, mais c'est vrai, c'est un avantage. Dans le tram, on me laisse la place et du coup, je peux donner un évangile en remerciement. Et c'est pas du tout une relation de... Voilà, c'est merveilleux. Donc je vous encourage à ne pas être timide. Moi, je suis timide de nature, mais le Seigneur fait les choses et la clé, c'est l'amour.
Merci. Donc, partagez l'évangile et teignez-vous les cheveux en blanc. Alors, petite pause peut-être dans les questions, juste pour vous proposer un temps d'échange dans vos groupes. Sur la réalité qu'on a pu partager peut-être ce matin, la réalité de nos cultes, de nos célébrations, peut-être là dans vos groupes, là où vous êtes, se poser la question ou s'imaginer votre voisin, votre collègue qui vient pour la première fois dans un culte dans votre église, simplement se mettre dans sa peau et partager ensemble qu'est-ce qui pourrait souligner positivement de l'expérience qu'il va vivre au milieu de vous. Vous connaissez bien vos églises. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, changer ou transformer pour que des personnes non-croyantes se sentent vraiment à l'aise au milieu de nous et comprennent ce que nous sommes en train de vivre. Ouais. Quelques minutes juste pour échanger là-dessus librement. On se tourne dans les groupes et on se met à la place d'un ami, d'un collègue. Voilà. Qu'est-ce qui serait positif pour lui, c'est-à-dire une force finalement ou des forces de notre Église, et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer, transformer pour lui permettre d'être pleinement à l'aise. Soyons concrets. Je vous interromps dans vos discussions. Merci pour votre participation active. Le temps est passé très vite. Il me reste 5 minutes seulement pour conclure. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Je me permets de vous lancer juste quelques défis pour terminer ce temps. Premier défi, vous venez d'en parler. Nos temps de culte, je vous lance vraiment ce défi de réfléchir l'articulation de tous ces temps que vous vivez en église, que ce soit culte, groupe de maison, en fonction des personnes non chrétiennes. Et bien sûr, en fonction des personnes chrétiennes. Un culte, c'est pas quelque chose où on ne va pas être nourri. Le culte doit nourrir le chrétien. Mais comment on peut à la fois nourrir vraiment le chrétien et savoir aussi s'adresser aux non-chrétiens qui nous rencontrent? C'est un défi, ça nous demande de nous bousculer, mais je crois que c'est important. Donc je vous lance ce défi-là cet après-midi. Réfléchissez vos cultes comment, à quoi ils pourraient ressembler s'ils étaient adaptés à nos amis non-croyants. Deuxième défi, et je m'adresse à tous les croyants, tous les croyantes, tous les disciples, mais aussi aux pasteurs et aux anciens des églises. Chaque disciple devrait être capable de faire du discipulat. Aujourd'hui, chacun d'entre nous devrait savoir être équipé, formé, pour prendre quelqu'un non chrétien et l'amener à Christ et à la maturité en Christ. Ce n'est pas le rôle des pasteurs. Ce n'est pas le rôle des évangélistes. Ce n'est pas le rôle des leaders jeunesse. C'est le rôle de chaque chrétien. Si aujourd'hui vous êtes dépourvu parce que vous dites « Mais moi, je ne saurais pas comment faire si mon voisin voulait se convertir et comment faire pour lui faire découvrir, amener jusqu'à Christ et après lui faire comprendre ce que c'est un disciple », ça veut dire que vous devez entrer dans cette formation. Et c'est un deuxième défi que je nous lance en tant qu'Église, de mettre en place vraiment la capacité de former. Il y a des outils extrêmement pertinents, extrêmement simples à utiliser, qui nous, vraiment nous mâchent le travail et qui nous permettent vraiment de faire un bout de chemin avec nos amis pour les amener jusqu'à Christ et après plus tard jusqu'à la maturité en Jésus-Christ. Demandez à vos pasteurs et à vos responsables d'église de vous former ou de vous donner les outils ou de créer, peut-être même au sein des églises d'Alsace du Nord, un temps de formation où les chrétiens ensemble pourront se former dans ce cas-là. Si on n'a pas cette capacité-là, on n'arrivera finalement pas à accompagner nos amis dans la vie de disciples. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples qui font des disciples. Et ces disciples qui soient eux-mêmes capables de faire des disciples qui feront des disciples. C'est un mouvement de multiplication que nous visons. Troisième défi, c'est qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis pour créer des ponts avec des amis non chrétiens. Si je suis que dans des activités d'église, je crois qu'il faut que je trouve quelque chose qui va me faire du bien, qui ne va pas me peser, mais où je pourrais être présent dans la société, engagé à côté de personnes non croyantes. Voilà. Le défi de cet après-midi, c'est que chacun d'entre nous, nous partions de là et nous nous disions « j'ai besoin d'être en contact ». Et si ce n'est pas le cas, je cherche une activité pour servir, un club de sport, peu importe finalement, mais juste un endroit où le Seigneur va pouvoir œuvrer à travers vous. Vous allez pouvoir être sel et lumière. Et enfin, dernier point, il me reste une minute. Je vous invite à lire Acte 17, où vous verrez Paul à Athènes, qui nous donne un cours d'adaptation culturelle. Un modèle pour nous à suivre. Mais ce qui me frappe dans son approche, c'est que Paul rentre à Athènes et le texte nous dit qu'il est indigné par cette ville. Indigné de voir ce que les hommes et les femmes vivent dans cette ville. Et pourtant, lorsqu'il s'adresse à eux, voilà ce qu'il dit. Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Paul rentre dans la ville et voit tous les idoles et l'idolâtrie. Il est indigné, nous dit le texte. Et Paul, lorsqu'il s'adresse aux Athéniens, nous dit « Je vous trouve à tout point de vue religieux. » Il souligne quelque chose de positif, de quelque chose finalement qu'il a en horreur. Et pour moi, j'en ai parlé ce matin, c'est la culture de grâce. C'est-à-dire qu'on va être capable d'accueillir des hommes et des femmes qui sont loin du Seigneur. On va être d'accord de les accepter au milieu de nous. Et qu'ils puissent cheminer. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant on a besoin d'expérimenter. Aujourd'hui, on le vérifie, il y a eu des sondages dans l'Église, les gens ont besoin de participer à nos célébrations longtemps pour finalement se convertir. Dans le temps, on se convertissait, on allait à l'Église. Maintenant, souvent, on va à l'Église et on se convertit. Pour les gens qui sont loin de l'Évangile. Et ça, c'est intéressant, ça va nous demander de savoir accueillir des hommes et des femmes qui vont être au milieu de nous et qui vont dysfonctionner et qui vont nous déranger. Mais par la culture de grâce, on veut les aimer comme le Seigneur les a aimés. Les accueillir patiemment et attendre avec le temps l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce qu'il plie le genou et qu'il puisse être transformé par l'Esprit Saint. Et par la parole, la culture de grâce. Toute personne, une personne SDF qui vient avec son chien au culte, c'est désagréable. Il ne sent pas bon, il fait du bruit, il est peut-être alcoolisé. On ne voudrait pas recevoir son chien, mais parce qu'on l'aime et parce qu'on sait que si on ne prend pas son chien, on ne le prend pas lui aussi, alors on l'accepte tel qu'il est. C'est la culture de grâce. Et cela, l'expérimentation de la foi par ceux qui nous rejoignent ne sera possible que si nous sommes capables d'accueillir. Et c'est le dernier défi que je nous lance. Ouvrons nos cœurs largement. Bousculons nos a priori et aimons tel que le Seigneur Jésus a aimé. Que le Seigneur nous aide dans cette tâche et dans cette mission qu'il nous donne. Je vous remercie pour votre accueil et pour votre écoute active. Et je nous souhaite beaucoup de joie dans la vie de disciple. À bientôt.
Merci. Merci Arnaud. Pour ces rencontres de Pentecôte, on a un mot d'ordre. C'est rassembler, équiper et défier. Alors, rassembler, c'est facile, on le fait presque naturellement. Équiper et défier. Est-ce que vous avez été équipé aujourd'hui? Est-ce que vous avez été défié? Oui. Merci Arnaud, tu nous as équipé et défié. Tu nous as fait partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et pour lequel vraiment il t'a équipé toi aussi. On est très reconnaissants. Je voudrais prier pour toi. Seigneur, nous avons expérimenté aujourd'hui cette bénédiction au travers de Arnaud, au travers de son enseignement, au travers de ce que tu lui as mis à cœur. Et nous savons qu'il porte ça sur son cœur très fort. Tu l'as toi-même modelé, Seigneur, pour cette dynamique missionnelle. Nous avons été équipés, nous avons été défiés et nous en sommes reconnaissants. Seigneur, je voudrais te demander, en notre nom à tous, de bénir notre frère Arnaud, de le garder. Tu sais les défis qui sont devant lui, tu sais ce changement de ministère maintenant qui est ce profil pour lui. Nous voulons te demander vraiment ta grâce, ta bénédiction sur cette transition. Nous te renouvelons cette prière pour quelqu'un pour prendre la relève pour l'église de la Cruthnou à Strasbourg. Et nous te demandons, Seigneur, aussi vraiment d'ouvrir cette nouvelle page pour Arnaud, pour son ministère, et de le mettre en bénédiction encore pour beaucoup, et de le bénir lui-même, lui et sa famille. Te le demandons, s'il te plaît. Nous te demandons ça en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Grand merci. Alors, on arrive presque au bout de notre rencontre. Je termine avec quelques annonces très courtes. Si vous voulez bien nous donner un petit coup de main pour faire des piles de chaises, une fois que la rencontre est terminée, ça va vraiment nous aider beaucoup. Alors, avec quelques consignes, il faut faire des piles de 12 chaises et il faut les laisser là où vous êtes. C'est-à-dire que ça ne doit pas circuler parce qu'il y a encore des câbles qui sont par terre et on ne voudrait pas que rouler sur les câbles les abîme. Donc, faire simplement des piles de 12 chaises et ne pas bouger les piles, nous nous en chargerons plus tard. N'oubliez pas d'aller récupérer vos enfants, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des enfants dehors ou à la garderie. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui étaient dehors, de vérifier les tics ce soir. Voilà, s'il vous plaît. Et je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose au niveau des annonces? Non, c'est tout. Alors, je vous invite à vous lever encore pour une parole d'envoi. Et puis, nous avons encore un dernier chant. C'est Jésus qui parle et qui me dit, qui te dit ceci aujourd'hui. Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, de la même façon, je les envoie, mes disciples, je les envoie dans le monde. Jésus lui-même t'envoie dans le monde. Demain, au travail, avec tes voisins, à la fac, dans ton club ou dans ton assos, dans ta famille, tu es envoyé, envoyé par Jésus. Et Jésus dit aussi, je ne te demande pas, Père, de les retirer du monde, mais de les protéger du malin. Alors Seigneur, s'il te plaît, protège-nous du malin. Et puis Seigneur, nous gardons avec toi, avec nous, cette promesse que tu nous fais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Un chant d'envoi maintenant. Nous allons briller, briller comme des flambeaux dans ce monde.
nous a demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre. Toi le transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre. Donnant la saveur de l'infini.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit,
nous irons
annoncer la paix,
le pardon,
ouvrant nos cœurs,
nos maisons remplies de ta étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre. Donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre. Donnant la saveur de l'infini. Toi le transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre.